RFJ Info.
Le journal présenté par Nancy Chapuis.
Bonjour, les objets en disent souvent plus long que des mots. C'est en tout cas le postulat de départ de deux lycéennes qui exposent leur travail de maturité au musée jurassien d'art et d'histoire. Une casserole ou encore des gants permettent ainsi de raconter l'immigration italienne. Le HCA Joua n'a pas glissé sur la peau de banane. Les Jurassiens se sont imposés hier soir contre Zug Academy 5-2 en Swiss League. L'occasion pour Gary Sheehan de faire tourner les lignes. Et on connaîtra le nom du successeur du HCA Joua ce soir. La finale de la Coupe de Suisse est programmée à 20h15 avec une belle affiche, Zurich-Berne. Il s'agira de la toute dernière édition sous cette forme de cette compétition. La bise s'est heureusement affaiblie, ce qui permet de profiter de cette belle journée ensoleillée. Ces conditions printanières vont se maintenir ces prochains jours avec un mercure qui va gentiment se réchauffer pour atteindre les 15 degrés mercredi. Et on ouvre ce journal avec ce fait divers. Des coups de feu ont retenti à Delémont la nuit dernière. Une personne a été blessée par un tir. Une procédure pénale a été ouverte par le ministère public pour tentative de meurtre. Les investigations policières sont en cours. Le communiqué de presse de la police cantonale précise qu'aucune information supplémentaire ne sera donnée pour le moment. Une nouvelle exposition au goût d'Italie au musée jurassien d'art et d'histoire. Pour sa réouverture, l'établissement de Les Montains proposera le travail de maturité de deux lycéennes. Cara Italia sera à découvrir dès mardi. Les objets de 8 familles d'immigrés sont au centre de la réflexion de Laetitia Brunierotto et Axalia Volmer.
Pour ce projet, on a choisi 8 familles italiennes dans le Jura qu'on est allé rencontrer et qu'on a interviewé, et par la suite ces personnes nous ont prêté leurs objets.
Pourquoi est-ce que, Laetitia, vous avez choisi des objets vraiment pour représenter ces personnes et leur lien avec leur pays d'origine ?
Eh bien, on pense que c'est à travers ces objets qu'on ressent le mieux l'histoire de chaque personne, et ces immigrés étaient très attachés à ces objets.
Comment est-ce que vous avez choisi les familles qui sont présentes dans votre projet ?
Tout d'abord, nous avons contacté une quarantaine de familles. Ensuite, nous en avons rencontré 10. Et parmi ces 10, nous avons choisi les 8 les plus motivées et les plus touchantes et intéressantes à représenter.
Et des propos recueillis par Amélie Fazel, l'exposition durera tout le mois de mars. Le musée est par ailleurs en pleine préparation de sa prochaine expo « Bas les masques, les carnavals jurassiens » à découvrir d'ici 2 semaines. Les douanes jurassiennes recèlent de nombreuses anecdotes. L'administration fédérale des douanes se penche de temps à autre sur certaines d'entre elles. Le poste de Faye a fait l'objet d'un article dernièrement. Ce travail historique est l'œuvre d'un expert en douane, Roman Dörr. On y apprend par exemple que bien avant 1850, on y faisait déjà des contrôles, récit de Séverine Bouy.
Un receveur des douanes bernois était déjà présent à Failly avant 1850. Il y percevait les droits de douane ainsi que l'impôt sur les eaux de vie. En 1893, c'est le corps des gardes frontières qui remplace les fonctionnaires cantonaux. Un nouveau bâtiment est alors construit à quelques centimètres de la frontière française. Une ligne qu'il faut surveiller nuit et jour, et ce malgré la bise qui souffle abondamment sur le site selon les cahiers d'orientation de l'époque. Véritable archive de la vie de ces gabelous. Autre difficulté, la forêt permet aux contrebandiers de dissimuler leur passage clandestin. Vêtements, chaussures, pièces de vélo et de voitures traversaient alors illégalement. La frontière était d'ailleurs régulièrement franchie pour exploiter les champs côté France. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, plus de 200 hectares étaient ainsi exploités par des paysans de Failly. Pendant la guerre, il leur était interdit de les cultiver. Une seule dérogation de la part des autorités allemandes d'occupation pour la famille Gudel. Celle-ci vivait dans une ferme située sur la frontière. La ligne traversait la cuisine. Cette situation favorisait la contrebande à tel point que le capitaine du poste de Failly de l'époque avait souhaité l'extraterritorialité de cette propriété sans succès.
Et ce soir, nous reviendrons sur un acte terroriste qui s'est déroulé dans le poste de Failly. C'était en 1977. Des bus sur la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. Dès demain, le trafic ferroviaire sera complètement interrompu en raison de travaux liés à la future ligne directe. Le chantier durera jusqu'au 31 octobre. Le trajet en bus prendra 7 minutes de plus qu'en train. Une indemnisation est prévue pour les abonnés. Le parc Chasseral plaît aux coléoptères. Un vaste inventaire a eu lieu entre 2016 et 2020 sur le territoire du parc régional en lien avec le maintien et la protection des arbres habitats. L'année dernière, le recensement a été mené plus particulièrement dans les vergers. Des pièges ont été installés dans les villages du Jura bernois d'Orvin et de Presles ainsi que dans la localité neuchâteloise de Chézard-Saint-Martin. Les résultats sont impressionnants selon Lucas Wolfer, collaborateur pour les projets nature au parc Chasseral.
Oui, on a été surpris par la grande diversité qui a été trouvée, et puis aussi par le nombre d'espèces menacées ou d'espèces qui sont caractéristiques de très vieilles forêts qui ont été trouvées. On a trouvé beaucoup d'espèces emblématiques aussi, des espèces qui sont liées vraiment à des forêts d'une grande qualité ou à des pâturages d'une grande qualité par rapport aux arbres qu'ils abritent.
Ça veut dire quoi une forêt ou un verger de grande qualité?
Ça veut dire qu'on a encore une quantité d'arbres avec des cavités ou de vieux arbres qui est importante, qui offre des habitats pour les coléoptères puis aussi pour d'autres espèces. C'est aussi utile par exemple pour les oiseaux cavernicoles, donc les oiseaux qui nichent dans des cavités naturelles.
Lucas Wolfer au téléphone de Séverine Boé a noté encore qu'un coléoptère jamais observé en Suisse, l'espèce nommée Anitis rubens, a été découverte lors de cet inventaire. L'hôtellerie suisse peine encore et toujours. En février, les établissements affichent d'importantes pertes de chiffre d'affaires. Le taux d'occupation reste historiquement bas dans les régions urbaines. C'est ce qui ressort d'un sondage mené par la fêtière Hôtellerie Suisse. Dans les régions de montagne, les hôtels tirent leur épingle du jeu grâce aux bonnes conditions météo et à l'ouverture des domaines skiables. Dans l'actualité internationale, les forces de sécurité birmanes ont violemment dispersé ce matin de nouveaux rassemblements de protestation contre le coup d'état militaire. Différentes sources font état de 6 manifestants tués et de dizaines de blessés. La Birmanie fait face à une vague de contestation et de désobéissance civile depuis le putsch du 1er février qui a renversé la dirigeante Aung San Suu Kyi.
Vous écoutez RFJ, il est 12h22.
Sport.
Et le point sport avec vous, Loïc Georgi, avec encore une fois les résultats suisses en ski alpin à l'honneur.
Et oui, Lara Gut-Bérami pourrait entrer un peu plus dans l'histoire. La skieuse tessinoise devrait s'adjuger son troisième globe de Super G, notamment grâce à sa deuxième place qu'elle occupe actuellement. Elle a été devancée par l'italienne Federica Brignonet et c'est Corinne Souter qui est actuellement troisième dans les Dolomites. La course a été interrompue deux fois déjà pour de lourdes chutes. Et chez les hommes, Loïc Meillard en embuscade. Le Neuchâtelois des Raymonds a signé le deuxième temps de la première manche du géant de Coupe du Monde organisée à Bansko en Bulgarie. Il a concédé 42 centièmes au Français Mathieu Fèvre. Le podium provisoire est complété par un autre Français, Alexis Patureau. Et côté Suisse, Marco Odermatt occupe le 6e rang, Justin Murizier le 8e et Gino Caviezel le 13e. La deuxième manche devrait débuter dans une petite trentaine de minutes. La Suisse signe une victoire historique. La sélection helvétique a remporté la première épreuve par équipe mixte de l'histoire de la Coupe du Monde de ski cross. Le duo Fanny Smith-Jonas Lenher s'est imposé dimanche à Bakuriani en Géorgie. Il a devancé la paire canadienne Christopher Del Bosco et Kutney Ofos en finale, grâce notamment à un finish remarquable de la Vaudoise. Et du côté du ski nordique, Nadine Fendrich et Lorien van der Graaf n'ont pas dû forcer leur talent. Elles se sont aisément qualifiées pour le final du sprint par équipe aux mondiaux d'Oberstdorf. La Lucernoise et la Grisonne ont terminé 3e de la première demi-finale, alors que les 4 premiers duos ont validé leur ticket. Le HC Ajoie poursuit sa marche en avant. L'équipe jurassienne de Swiss League de hockey sur glace a battu hier soir Zug Academy 5-2. Sans forcer, la troupe jurassienne s'est rassurée au fur et à mesure des minutes pour se mettre à l'abri dans ce duel. Toutes les lignes ajoulottes ont bénéficié d'un temps de jeu conséquent. C'est ce que voulait l'entraîneur du HCA, Gary Chian.
On a une semaine de 4 matchs, alors c'est vrai que ça nous a peut-être un peu. Le jeu était un peu décousu par moment, mais. Je pense que c'est important d'utiliser la profondeur. De jouer contre la même équipe la troisième fois dans l'espace de 15 jours, c'est non plus pas très motivant. Alors bien sûr qu'il y a un objectif, faire des points, finir premier, batailler pour cette place, mais tu sais, il n'y a pas de spectateurs, on joue contre les mêmes, on sait qu'on est plus fort qu'eux, mais il faut quand même jouer. C'est pas facile. Alors aujourd'hui, je pense que c'était pas notre meilleur match, mais on a su trouver les moyens pour gagner.
Et du coup, c'était vraiment une volonté pour vous assumer finalement de faire tourner un maximum, d'épargner un petit peu de temps de jeu aussi à la première ligne notamment.
Oui, c'est sûr que j'essaye de. Tu vois, que je vois la semaine de 4 matchs. Moi, je ne veux pas au bout de ces 4 matchs-là, je ne veux pas tuer mon équipe après 46 matchs de championnat, puis arriver en play-off et puis être à bout de souffle à cause qu'on joue pour la première place. Il faut de la profondeur. Puis ben, ces derniers matchs, ben, notre troisième ligne, notre quatrième ligne, marque des goals et puis ça aide. Quoi. Ça enlève la pression aux deux premières. Et puis après, c'est clair qu'il y a beaucoup d'ajustements aussi. On fait des essais encore un peu à travers ça. Autant nos attaquants que nos défenseurs, il faut être de bonne volonté et puis essayer de travailler en équipe dans nos structures. Et puis ça va marcher.
Des propos recueillis par Michel Léoni. Au classement, Ajoie est toujours en tête à égalité de points avec Kloten. La troupe jurassienne joue 4 matchs la semaine prochaine pour conforter cette place et finir champion de la saison régulière. Et qui de Zurich ou de Berne succédera au HC Ajoie ? Les deux clubs de National League s'affrontent ce soir en finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Le match commence à 20h15 à Zurich. Les deux formations tenteront de mettre la main sur le dernier trophée de l'épreuve. La Coupe de Suisse n'existera plus la saison prochaine, en tout cas pas sous sa forme actuelle. Présentation de ce duel avec Mathieu Schaffner.
Sur le papier, pas de David face à Goliath. Cette fois-ci, une année après le sacre mémorable du HC Ajoie, ce sont deux mastodontes du hockey suisse qui se retrouvent en finale, mais ces deux poids lourds connaissent un hiver bien différent. Zurich tient son rang et fait honneur à son statut de candidat au titre en National League en étant solidement installé dans le trio de tête. Les joueurs de Suisse centrale ont l'occasion de remporter la 4e coupe de leur histoire, la première depuis 2016. Face à eux se dressera une équipe à la peine. Cette saison, déjà passée à 3 reprises par la case quarantaine, Berne est englué dans le fond du classement de National League. Si les joueurs de la capitale semblent enfin trouver un rythme depuis 2 semaines, cette coupe de Suisse a longtemps été leur bouffée d'oxygène. Ils ont d'ailleurs sorti le tenant du titre, Ajoie, mi-décembre en quart de finale. Ils patineront ce soir après leur 3e sacre dans l'épreuve, le premier depuis 2015.
La finale de la Coupe de Suisse entre Zurich et Berne, c'est ce soir à 20h15. Retour sur ce match demain dans la matinale. On se rend cette fois-ci sur les parquets où le BC Boncourt peut avoir des regrets. Le club ajoulot de Swiss Basketball League s'est incliné contre Massagno 101 à 91 hier soir. Une rencontre qui ouvrait le 3e tour de saison régulière. La Red Team a pourtant bien tenu son adversaire au score, mais elle a concédé une différence de 6 points dans le 2e quart. Un écart décisif dans cette partie. Au classement, le BCB reste 6e avec 2 points d'avance sur ses poursuivants. Je vous souhaite une très belle journée.
Et les prochaines informations pour 18h. La météo avec une belle journée bien ensoleillée, des températures un peu plus douces que hier, par exemple, en journée, avec effectivement l'annulation maintenant de la bise. Et c'est tant mieux, 10 au meilleur de la journée à Porrentruy ou encore à Delémont et à Moutier et sa région, 9 à Tramelan, 9 également à Seine-Légie ou encore 9 à La Chaux-de-Fonds. Et au Locle pour demain. Demain lundi, une belle journée bien ensoleillée et une excellente visibilité. Quelques bancs de brouillard ou de stratus bas, toutefois présents en matinée au pied du massif et dans les cuvettes. Les températures seront fraîches à l'aube, puis très douces pour la saison en journée à toutes les altitudes. Et puis alors mardi et mercredi, persistance d'un temps bien ensoleillé sur l'ensemble et des températures qui vont grimper pour atteindre 15 degrés par exemple mercredi ou encore jeudi en pleine.